France Inter.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter et à 18h passé de 10 minutes, on vous retrouve, Charline Van Hoecker, pour le grand dimanche soir. On me dit que vous faites encore salle comble ce soir.
Ah oui, merci Timur Özturk pour ces informations. Le studio est bondé, mais on va serrer et vous trouver une petite place, mon cher Timur.
Je descends tout de suite avec grand plaisir.
Eh bien, très bien, on vous attend. Enfin, on vous attend.
Ne m'attendez pas, allez-y.
Courez.
Foncez.
Vous savez, nous, notre mission à la radio, c'est de vous faire oublier le blues du dimanche soir. Mais si c'est à nous qu'on met le blues, là ça se complique. Guillaume étant mis à pied par Radio France, on va devoir faire sans lui. Alors cette fois c'est vous, chères auditrices, chers auditeurs, et vous dans la salle qui allez nous aider à chasser le blues. Alors François Audouin, notre réalisateur, top antenne.
En public et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le grand dimanche soir.
Parce que c'est notre projet.
D'émotion et de musique avec Julien Tardon, Guillaume Meurice, Émeric Lomprey, Chewbacca, une petite nouvelle, Mathilde May, Douli, Jamil Le Schlag, Guédré, et la reine de la satire politique, la poétesse de la rigolade, celle qui est l'autrice de ces vers, un seul humoriste vous manque et tout est dépoilé, Charline Van Hoecker.
Le grand dimanche soir. Sur France Inter.
Bonsoir la France Inter. Il manque l'un d'entre nous ce soir, on pense à lui, n'est-ce pas? Et je sais qu'il nous écoute. On pense à toi, Alex Vizorek. Je vous ai eu. Alors aujourd'hui, oui, un seul être vous manque et c'est Guillaume Meurice, qui n'a pas le droit d'être avec nous ce soir. Radio France l'a envoyé 2 semaines en internat pour le remettre dans le droit chemin. Il est convoqué le 16 mai pour faute grave. Faute grave ! Voilà, en cabotin qu'il est, vous le connaissez, il s'est amusé dimanche dernier à refaire une blague que la justice française venait pourtant de requalifier comme blague, puisque la plainte contre lui a été classée sans suite. Alors, classée, oui, mais sans suite. Alors, j'ai une pensée émue pour le procureur qui a classé la plainte. Il doit penser, ok, donc moi je dis un truc... Mais à Radio France, tout le monde s'en carre, en fait. Alors, certains d'entre vous nous ont demandé pourquoi nous ne sommes pas en grève. Bah, d'abord parce qu'on est des spécialistes de la grève. On les a toutes faites depuis 10 ans. Hein, et on connaît les règles. Eh oui, on connaît les règles. Préavis de 5 jours à Radio France. Vous voudriez pas qu'en plus, on se mette hors la loi? Hein ? Et puis comme l'extrême droite a décidé de nous faire taire, ce soir, on va tout de même pas leur laisser ce plaisir. Alors on a la chance d'avoir un micro, on le garde parce que c'est important de défendre la liberté d'expulsion. D'expression, pardon. Oh là là ! Pardon, faut dire qu'en ce moment, on s'y perd un peu, hein, je suis désolée. Donc, petite parenthèse, je rassure nos dirigeants à Radio France, cette chronique a été relue par un avocat. Ouais, parce que comme je sens bien que les RH sont très débordés à virer des collègues, je leur évite des réunions inutiles, vous voyez. Dans les émissions d'humour et de reportage, en ce moment, on donne beaucoup, beaucoup de boulot aux ressources humaines. D'ailleurs, à force de passer plus de temps au RH et à la PJ plutôt qu'à rire des blagues, on va finir par donner raison aux gens qui disent que l'argent public est mal dépensé. Mais, question, s'il n'y a plus Guillaume et que nous, on disparaissait... Pascal Proulx, il va s'attaquer à qui pour pas s'emmerder ? Hein ? À Demorand et Salamé ? Alors nous, on veut bien continuer à faire paratonnerre. Hein ? Alors on nous reproche parfois de manquer de retenue dans un contexte social tendu. Comme si les humoristes avaient un pouvoir politique. Vous avez déjà vu un clown au gouvernement ? Non, ne répondez pas parce qu'on va avoir des ennuis. Non, pardon, excusez-moi. Je vais enchaîner. C'est pas gentil pour les clowns. Alors, je reconnais qu'on est allé trop loin. En voulant mettre des blagues dans des chroniques, on a dépassé les limites. Ça, d'accord. Mais je sais pas dans quel club on te prive de ton principal attaquant 3 jours avant le match. En matière de liberté d'expression, même s'il faut monter sur le terrain sur une seule jambe et les yeux bandés, on va le jouer ce match, non ? Alors ce soir, on vous promet pas de marquer des buts, hein, ça. Mais on a à cœur de montrer que la solidarité, ça existe encore et c'est la meilleure défense. C'est la première de Mathilde Amé.
Salut.
Ouais, vous
bonjour.
Êtes
bonjour, chère Mathilde.
J'arrive à point nommé.
Il me semble. Bon, je vous demande pas comment ça va.
Non, ça va aller.
Ouais, voilà. Ouais. Non, mais dans ces cas-là, il y a un remède universel. Hein.
L'alcool.
La musique. Ah. Et on accueille un groupe qui fait partie de la tribu France Inter, de la playlist. L'Escope est avec nous ce soir. Et rappelez-nous, qui est l'Escope, Djoubaka ?
Eh ben, en 2011, on découvrait l'Escope et son infondante chanson dans la forêt. Il a mis 7 ans à peaufiner ce 3e album solo. Mais entre-temps, il s'est pas tourné les pouces, hein, puisqu'il jouait avec un nouveau groupe, Le Serpent. Mais en février, leur voilà avec Rêve Parti, rêve comme un songe. Et donc, les songes prennent la poudre d'escampette. Et aujourd'hui, il vient accompagné de Thibaut Frisoni, avec qui il a imaginé son nouvel album. Et ensemble, ils défendent cette nouvelle chanson. Les garçons, allez ! C'est à vous.
Au boulot.
Dans un été suffocant, parfois il se lève tôt. Il respire le sirocco. Comme des rois fainéants affalés sur le dos. Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau. Comme des anges dilettants, ils font semblant d'être idiots. Voyous, discrets et ça les rend beaux. Ils parlent aux filles en criant, ils ne connaissent pas les mots qui se cachent dans leur petit cœur de salaud. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Quand un désir fou brûlant ou l'envie d'un sanglot les étreint violemment, partent en lambeaux. Un amour dévorant, troublant, cruel et beau, comme le regard d'un serpent dans celui d'un oiseau. Les anges dilettants partent toujours trop tôt. Ils aiment la vitesse et l'argent, les flingues, les motos. Puis septembre arrivant, ils se brisent les os, ils se fracassent au volant de leur jetée. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. C'est comme ça que pensent les garçons. C'est comme ça que pensent les garçons. Quand tu tombes amoureux.
C'était l'Escope avec les garçons issus de leur dernier album Rêve Party qui est sorti en février. Le titre est sur la playlist France Inter et on vous retrouvera tout à l'heure pour une reprise. On dit quoi ou on laisse la surprise à votre avis ?
Surprise, non ?
Ouais, on va laisser la surprise. Et vous êtes encore en tournée dans toute la France aussi, l'Escope. Vous serez notamment à La Rochelle le 12 juin, par exemple. Ouais. Le 14 juin à Saint-Brieuc. Et à la Maroquinerie les 27 et 28 mars. L'Escope avec nous et qu'on retrouve.
Salon à les 16 mai.
Super, merci, à tout à l'heure. Allez. Vous savez, il sera beaucoup question de liberté d'expression ce soir. C'est devenu un combat quotidien en France et partout dans le monde. Alors, plutôt que d'en parler, on va l'exercer. Retour sur une semaine riche en actualité. Et n'oublions pas qu'ici, c'est pas l'information qui compte, c'est ce qu'on en fait.
Puisqu'on parlait de France Inter, Guillaume Meurice, suspendu par Radio France après avoir répété ses propos sur Netanyahou. Alors, pour le coup, Madame Veil a été vigilante.
Non mais attendez, est-ce qu'on peut discuter quand même de la légitimité ? Moi, je déteste l'humour de Guillaume Meurice. Maintenant, moi, je déteste aussi, si vous voulez, qu'on juge l'humour.
Le journal des bonnes nouvelles.
Moi, je passe mon temps à dire qu'il faut que toutes les religions acceptent qu'on se paye leur tête.
Oui.
Et bah oui. Et bah donc, oui. Je pense qu'on a tort de sanctionner l'humour.
Elisabeth Lévy avec nous. Et on commence par la principale bonne nouvelle de cette édition. Pour la cinquième année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. C'est à vous, Guillaume. Oui, ah, oui, je suis dans le déni. Oui, ça va, bon, voilà. Donc je vais faire les deux rôles. Pour la cinquième année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, donc je n'ai rien à ajouter, Charline. Tant de sérieux, Guillaume, je suis bluffée. Non, c'est pour équilibrer avec le reste du journal. Équilibrer, c'est très important, Charline. Oh, Guillaume, vous êtes si chou. Car c'est important de répondre aux exigences de pluralisme en matière de blagues, quand partout ailleurs, on entend le Rassemblement National matin, midi et soir et après-midi. Et bon, voilà. Non, mais de rien, Charline, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Oh, ben merci, Guillaume.
Non, Charline, je vous aime beaucoup, hein, mais là, ça marche pas.
Non, mais attendez, je vais essayer de m'en sortir. Écoutez. Bonne nouvelle, les Républicains ont présenté leur liste pour les prochaines élections européennes et parmi les noms, on retrouve Nadine Morano. Voilà. Et là, c'est pratique, cette actu, vous voyez, pas besoin de personne pour faire une blague derrière.
Non, Charline, là, les gens font semblant de rire, voilà.
Bon, j'avoue. Bon, tu veux bien le faire avec moi ?
Bah non.
S'il te plaît, en souvenir de Guillaume.
De qui ?
De Guillaume Meurice.
Ok, allez, une petite.
Voilà.
Mardi dernier, Benjamin Netanyahou.
Non,
quoi ?
Non. Non, on a dit qu'on arrêtait. On a dit qu'on arrêtait avec ça, donc trouver une autre actu. Voilà.
Ok. Bon, alors, la semaine dernière, dans les Ardennes, un homme qui se faisait opérer du prépuce.
Non. Putain, vous le faites exprès ou quoi ? Il y a quand même d'autres infos.
Oui, pardon, ouais. Excusez-moi. Alors, jeudi, sur l'île Meurice.
Non. Ouais. Non, vous prononcez mal. C'est l'île Maurice. Puis c'est trop touchy comme zone, l'île Maurice, on peut pas parler de ça non plus.
Là, je vous retrouve, Charline. Mais j'ai l'impression que vous devenez un peu parano.
Mais pas du tout, je vois pas pourquoi vous dites ça. Voilà, c'est vous qui avez des actus orientées et vous voyez bien que ça stresse tout le monde.
Ouais bah, ça va. Et à ce moment-là, faut plus appeler cette séquence le journal des bonnes nouvelles. Faut appeler ça le journal des nouvelles qu'on peut pas dire. Hein. Allez, on arrête là. Ouais. Sans Guillaume, ça n'a pas de sens.
Ah bon, une toute dernière, s'il vous plaît, une dernière.
On dirait une tox, Charline.
Oui, bah, c'est un peu le cas. Alors, liberté d'expression toujours. Le RN Julien Odoul a demandé la suspension de la journaliste Nassira El-Mohadem à cause d'un tweet où elle dit qu'elle vit dans un pays de racistes dégénérés.
Oui, et Julien Odoul l'a tout de suite pris personnellement. On se demande bien pourquoi.
Ouais. C'est vrai que pour demander la suspension d'une journaliste arabe sur le plateau d'un journaliste condamné pour harcèlement sur mineurs, il faut être à la fois raciste et dégénéré.
Soutien à Nassira.
Voilà. Bon, ça, c'est l'heure de rejoindre notre envoyé spécial, Aymeric Lompré. Ah merde, c'est encore vous.
Mais oui, c'est encore moi.
Ouais.
En plus, j'ai déjà fait le journal, je suis crevé. Hey, je peux pas être au four et sur le terrain.
Oui, bah ça va, on va prendre quelqu'un du public au hasard. Monsieur là-bas qui est sur le terrain, là.
Ah, oui, ouais, c'est à moi.
Voilà.
Oui, je suis dans le public, quoi, voilà.
Ouais. Oui, donc, Thomas Bidguin, vous êtes parmi le peuple, vous sentez le pouls de la France, alors quel est votre ressenti de là où vous êtes?
Ouais, bah, pour le pouls, je sais pas trop, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, on est quand même ici pas très bien. Les fauteuils de ce côté-là sont quand même moins confortables que les vôtres. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Non, on n'est pas hyper, hyper bien nazi.
Ah, Charline, il a dit nazi.
Mais non, 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 mais non. Il a dit bien assis, pas nazi.
Voilà. Ouais. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les fauteuils sont un peu nazes ici.
Oh, il a redit nazi, Charline.
C'est un Guillaume moment.
On ne peut plus rien dire.
Merci Thomas Bidguin qui est dans cette salle et qui est venu nous soutenir, tout comme Laëlia Véron. Prochain point sur l'information avec le journal de la rédaction à 19h. Juliette Arnault, en direct sur France Inter, dans le studio 104. Vous partagez les classiques de la littérature et une grande écrivaine guadeloupéenne nous a quittés en avril dernier, Maryse Condé. Vous avez découvert l'un de ses romans, Moi, Tituba sorcière.
Ouais, et c'était ma première fois avec Maryse Condé. Et ça, c'est encore une autre chose formidable avec les livres. On peut s'y mettre à n'importe quel âge. À la différence de la pratique de la roulade arrière, croyez-moi. C'est un roman que j'ai lu d'une traite et j'ai suivi donc le personnage principal, Tituba, dans sa vie chaotique. Il commence à la Barbade, oui, le pays d'origine de Rihanna. Mais c'est, le livre, il est sans rêverie puisqu'on est à la fin du XVIIe siècle. Mais on se remet très bien de son absence puisqu'il y a la présence de Tituba qui shine bright like a diamond. Une autre femme noire et on part avec elle jusqu'à Boston et puis dans la petite ville de Salem et retour bien plus tard à la Barbade. Quoi? Hein? Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? La petite ville de Salem? Salem comme les sorcières de? Oui, tout à fait. Tituba faisait partie de ces femmes enregistrées dans l'histoire américaine comme victime fameuse d'un épisode de chasse aux sorcières. L'histoire avec un grand H. Hein. Beaucoup d'historiens ont enquêté. Un dramaturge aussi, Arthur Miller. Vous voyez pas c'est qui? C'est un des Marilyn Monroe. C'est mesquin comme présentation? Oh bah, il s'en remettra. Tout le monde n'a pas la chance d'être l'ex de Michael Youn. Finalement, cette histoire de procès, eh ben, c'était pas des sorcières, finalement. Finalement, Satan n'avait pas pris possession des enfants de la communauté. Finalement, on a réhabilité les accusés. Finalement, tout ça était bien instructif, puisqu'un skin, ainsi naquit l'expression chasse aux sorcières. Et elle a bien servi, notamment au moment du maccartisme. Coucou Guillaume, ma sorcière bien-aimée. Sauf que l'histoire et les historiens avaient négligé une de ses accusées, elle s'appelait donc Tituba, et Maryse Condé, en 1986, répare. Elle se penche sur le cas de Tituba et écrit son histoire. Mi-réalité, enfin le peu que l'histoire avec un grand H a gardé d'elle, mi-fiction pour ce que l'histoire a effacé. Pourquoi effacer Tituba, allez-vous me dire? Trois bonnes raisons, femme, noire, esclave. Ce qu'on appelle, chez nos amis cartons anciens, le trident de chance. Le roman s'intitule « Moi, Tituba sorcière » parce que l'écrivaine semble délivrer la parole oubliée de Tituba, ses mots, son âme. Et s'il y a le mot « sorcière » dans le titre, je crois que c'est un exemple caractérisé de retournement de stigmates. Ce qu'est Tituba, c'est guérisseuse, comme la femme qui l'a élevée. Tituba n'est sorcière que dans les yeux des autres. Moi, par exemple, j'ai oublié le nom des accusateurs des sorcières de Salem. Maryse Condé, elle, met la lumière sur celui de Tituba. C'est ainsi, les chasses aux sorcières. Le retour de Boomerang, il est imprévisible. Merci, bisous, merci.
Et l'histoire de ce roman se prolonge dans le Petit Théâtre Radio. Voici une adaptation actuelle du procès de Tituba dans une cour où la juge s'est guédrée.
Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts, mais d'égale importance. La police, qui enquête sur les crimes, et le procureur, qui poursuit les criminels. Voici leurs histoires.
Rebecca, tu peux plutôt faire le texte qu'on t'a écrit, s'il te plaît?
Ok, ok. En 2024, s'ouvre le procès en sorcellerie de Tituba. Oui, la justice est vraiment très, très, très lente. Tituba, absente de son procès, est représentée par Juliette, son avocate. De l'autre côté, Aymeric, le procureur, tente de convaincre la juge de la culpabilité de la jeune esclave.
Bon, si nous sommes réunis ici, c'est pour le procès en sorcellerie de Tituba.
Ouais, et ça va filer droit pour Tituba. Après, quand il n'y a pas Guillaume Meurice, pour les blagues, on fait appel à Laurent Ruquier.
Bon, Tituba est accusée de crime de sorcellerie. Maître Juliette, à la barre.
Oui, madame la juge, chère jurée, chers confrères, Tituba est accusée d'avoir ensorcelé tout un village, mais tout le monde était défoncé et racontait absolument n'importe quoi.
Oui, selon le rapport de police, on se serait cru dans une soirée chez Pierre Palmade.
Tout à fait, mais il ne s'agissait pas d'un sort, madame la juge, mais d'un champignon hallucinogène qui en fait avait été en contact avec le seigle.
Objection !
Oui ?
Les champignons ne font pas ça. Les champignons, c'est délicieux. Moi, j'ai une petite recette de mori à la crème.
Objection rejetée. Poursuivez.
Ces champignons hallucinogènes, mon cher confrère, disais-je, ont provoqué les délires de la foule et des enfants. Ma cliente n'est en aucun cas responsable de cela.
Ah ouais ? Mais alors, comment vous expliquez que Tituba est capable de faire deux choses à la fois ? Elle peut faire le ménage et s'occuper des enfants en même temps ? Comment je l'ai bien mouché ?
C'est simple, c'est une femme, en fait.
Ah.
Bon, monsieur le procureur, quelles sont vos autres preuves à charge de sorcellerie ?
Mais enfin, madame la juge, est-ce besoin de donner des preuves ? Tituba est noire, Tituba est esclave, Tituba est une femme, voilà.
J'ordonne le classement sans suite. Affaire suivante, procès en sorcellerie de Guillaume Meurice. Où est-il ? On ne sait pas.
Merci Juliette Arnaud et sa petite troupe avec l'aimable participation de Rebecca Manzoni que vous retrouvez après cette émission bien sûr dans Le Masque et la Plume. Et merci également à François Bory et Camille Annie à la vidéo ainsi qu'à Léon Jacquier et Théodore Fine à la lumière car nous sommes diffusés en streaming vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter. Nous sommes en direct, il est 18h33. Est-ce que vous voulez une petite histoire de l'oncle Joub ?
Oui !
Hey !
Allez !
Et il nous a encore dégoté une avec un standard de la musique, un tube à connotation politique dont il va nous expliquer le contexte, les sous-textes. Ce soir, c'est celui-ci. Ouais, ça me paraît assez explicite, c'est... Kill the poor, c'est ça ?
C'est un peu tuer les pauvres. Ouais. Alors, parlons peu, mais parlons de Jello Biafra, qui est la figure de proue des Dead Kennedys, et dans leur premier album, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, des fruits frais pour des légumes pourris, le groupe punk de San Francisco ne gueule pas pour ne rien dire. On est en 1980, c'est l'arrivée du président Ronald Reagan et le grand retour des conservateurs, et ces gus sont un peu méfiants avec un Biafra qui s'est présenté un an plus tôt aux élections municipales de San Francisco. Dans son programme, obliger les hommes d'affaires à travailler avec un masque de clown, virer toutes les voitures de la ville, on est en 1979, occupation des immeubles vides, le truc c'est qu'il va rassembler 3,5% des suffrages et se positionner en quatrième sur 10 candidats, donc ça franchement c'est le début des problèmes. Donc le premier album des Dead Kennedys, c'est une déflagration sonore textuelle. Alors j'aurais pu vous parler de Holiday in Cambodia, super marrant, ou de California Uber Alles, ça veut tout dire, qui sont des bijoux de contestation. Mais je m'arrête sur Kill the Poor. Autrement dit, tuer la pauvre. Alors, dans cette chanson, Jello Biafra imagine, ironique, je précise, ce que certains pourraient désirer tout bas. Bah, ils se reconnaîtront. Comment se débarrasser des miséreux ? Je vous explique, il y a une bombe à neutrons intelligente qui débarrasse les riches et les classes moyennes de ces gueux et de leurs problèmes. Plus de bidonvilles, plus d'aide sociale, bref, plus de tracas. Alors, est-ce que Kill the Poor est une chanson d'anticipation ? Je ne sais pas, mais en tout cas, au revoir François.
C'est le choix de Djoubaka et hop, un titre en plus dans cette playlist politique qu'on constitue depuis le début de la saison. Ça va toujours les amis ? Mathilde Amet, Douli, Guévré, Jamil Lechlag, Djoubaka, Aymeric Lomprey, Juliette Arnaud.
Oui.
Il manque quelqu'un, ça vous l'avez su. Et puis merci à Thomas Bideguin et Laëlia Véro d'être avec nous dans la salle aussi. Puis tous les copains qui nous écoutent, ça fait plaisir. C'est le moment d'ouvrir le cercle de cette émission à une jeune pousse de l'humour, à la curiosité, à une autre écriture. Voici, sur la scène du Studio 104 et dans vos oreilles sur France Inter, Hakim Omiri. Bienvenue, Hakim. Et pour t'aider à calibrer ton texte, au bout de 3 minutes, tu entendras ceci. Voilà. Eh bien, l'antenne de France Inter est à toi, mon cher Hakim.
Eh ben, bonjour tout le monde. Je vous cache pas que ça fait bizarre d'être ici, parce que moi, en fait, c'est Guillaume Meurice qui m'a invité. Et c'est comme si t'as un ami qui te dit « Viens avec moi à un anniversaire, tu vas voir, mes potes, ils sont grave drôles. » Et toi, tu viens, et puis bah lui, il est pas là parce qu'il est plus invité. En plus, à la base, moi, je voulais faire une chronique engagée, mais vu la conjoncture actuelle... pas fastoche, hein, parce que j'aimerais bien revenir, en vrai, c'est ça le truc. Du coup, je vais vous parler de la liberté. Voilà, en France, on jouit quand même d'une liberté d'expression assez incroyable. Par exemple, on peut dire « Une étudiante a été interdite d'entrer dans un amphithéâtre parce que juive. » Et c'est important de le dénoncer parce que c'est hyper grave. Après, c'est hyper faux aussi, mais on peut le dire. En France, on a le droit de dire qu'à Sciences Po... Les étudiants ont mis la faculté à feu et à sang. Et c'est vrai qu'un étudiant, il s'est allumé une clope parce qu'il saignait du nez quand il s'est fait sortir par les keufs. Après, le gouvernement, ils connaissent peut-être pas bien la définition. Je vais les aider. Gaza est à feu et à sang. Sciences Po est à Sèvres-Babylone. C'est dans le 7e. Les seuls feux qu'il y a dans le 7e, c'est les feux rouges, alors que c'est limité à 30. Après, c'est pas le sujet, je suis pas venu pour parler de Hidalgo d'émission. J'étais obligé de faire une petite dédicace à Guillaume, rest in peace. Il est pas mort, mais il est mis à pied. Rest in mise à pied, ça sonnait pas de ouf. Du coup, après, je critique, mais en France, on a une liberté immense pour les blagues, hein, quand même. Par exemple, je peux vous citer la fameuse blague « Les Palestiniens sont un cancer » de l'excellent Meir Habib, qui est humoriste des Français de l'étranger. Ça manquait d'une chute, mais c'est passé, quoi. Merci. Je pensais qu'après les attentats, on s'était tous mis d'accord sur la liberté d'expression. Là, apparemment, ils sont plus Charlie, hein. D'ailleurs, ils sont même pas Charline, par rapport à toi, Charline. Vous vous rendez compte que Guillaume, il a fait une blague qui a été jugée légale. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il a été jugé plus vite que Sarkozy. Il y a un juge qui a statué. Après, Guillaume, il l'avait prévenu. Tu sais, il avait dit, vous avez dit une connerie, il faut vous excuser. Lui, il a répondu, mais dire des conneries, c'est mon métier. Boum, chômage. Allez hop, fini France Inter, bonjour France Travail. Faudra pas se plaindre s'il fait un nouveau livre, hein, par contre. Hein. Pourtant, la directrice de France Inter, au départ, elle avait dit qu'elle était derrière Guillaume. Mais apparemment, c'était pour mieux le pousser dans les marches. Bon, j'espérais faire une bonne chronique et revenir. Je suis pas sûr qu'après cette blague, je revienne. Du coup, foutu pour foutu, allez hop, mode kamikaze. Mais restez assis, c'est une métaphore, hein, parce que... Non. Après, vous vous êtes pas levé, je sais pas si c'est à cause de l'âge ou quoi, mais en tout cas, là, je vais balancer. Alors, Léa Salamé, ton mec, il est nul ou quoi ? Ouais, de c'est pas ouf, mais en vrai, c'est parce que j'ai envie de revenir, mais avec Guillaume, histoire qu'on rigole un peu, quoi. Tout ça, ça me fait penser à cette phrase de Coluche qui disait « Si voter changeait les choses, ça ferait longtemps que ça serait interdit. » Moi, je me dis, si faire rire commence à être interdit, c'est peut-être que ça change les choses. Merci beaucoup.
Il s'appelle Hakim Omiri. Venez nous rejoindre, cher Hakim. Merci. On peut vous voir au République le 18 mai, le 28 juin à Bruxelles et puis en septembre au Métropole à Paris. Et votre Instagram, c'est @hakimomiri.
Oui.
Merci, cher Hakim. Et puis, bien sûr que nous, on est inquiets. Vous l'avez formulé à votre manière. Mais ailleurs, ça craint bien plus. Hein. On pense aussi, par exemple, au rappeur iranien Tomaj Salehi. Alors là, carrément condamné à mort et incarcéré au secret. Hein, relativisons aussi les choses. Et il y a aussi le Kaboul Comedy Club où ça va pas fort non plus. Donc faut quand même le signaler aussi. Allez, on passe à la culture, parce que cette émission, c'est de l'humour et de la culture. Et on va accueillir aussi une nouvelle écriture, un nouveau point de vue, en tout cas dans cette équipe, parce que vous la connaissez bien. Elle nous accompagne dans cette émission particulière. Et pour une première, je l'en remercie chaleureusement, la talentueuse autrice, metteuse en scène, Mathilde Amet.
Bonsoir.
Merci, merci.
Alors moi, j'aimerais partager avec vous une petite proposition, comme ça, pour ne pas se laisser écraser par le fracas du monde et l'anxiété qui va avec. Pour ce faire, et parce que ça fait du bien, j'aimerais réhabiliter l'idolâtrie. Oh, je sais, ce n'est ni très contemporain, ni très socialement juste de hiérarchiser des personnes, de placer certains humains au-dessus des autres, surtout à France Inter, mais voilà, comme moi je ne suis pas religieuse, j'aime bien mettre du divin là où c'est possible, du spirituel là où ça ne saute pas forcément aux yeux, et du sacré ailleurs que dans des lieux de culte. Et vu la rapidité fulgurante avec laquelle la haine et la crétinerie se propagent, j'ai bien envie de plébisciter ceux qui résistent et qui se donnent encore la peine de s'extraire du chaos pour rêver. Ceux qui cherchent un peu de lumière dans les ténèbres, ceux dont on dit souvent qu'ils sont dans les nuages ou dans la lune, je veux parler des artistes. Car oui, je l'avoue fièrement, bon nombre de mes idoles sont des artistes. Attention, hein, je ne parle pas des faiseurs, des copieurs, des escrocs ou de ceux qui ont des velléités et qui pètent plus haut que leur cul. Non, je parle de ces authentiques utopistes, ceux qui se tuent à la tâche pour que non seulement leurs rêves deviennent une réalité, mais qui plus est, une réalité partagée. En imaginant d'autres façons d'être, de faire ou de rire, d'entendre ou de donner à voir le monde, les artistes questionnent, proposent un regard sur nous-mêmes et de fait développent une sorte d'antidote à la barbarie communément appelée l'empathie. Combien de salles de répétition ou de théâtres remplis de comédiens qui interrogent les intentions de leurs personnages ? Combien de studios de danse remplis de corps endoloris ou même blessés qui refont des heures durant le même mouvement pour lui donner du sens ? Combien de musiciens qui répètent en boucle les mêmes notes pour trouver le son juste et l'émotion à offrir ? Combien de feuilles froissées rageusement et jetées à la poubelle, de chansons effacées, de salles de spectacle à moitié ou complètement vides ? Et combien d'économies dilapidées pour simplement participer à un festival ? En d'autres termes, combien d'échecs cuisants pour si peu d'état de grâce ? Alors que certains évoquent un statut privilégié, j'aimerais rappeler que rares sont les artistes qui parviennent à vivre de leur passion et qu'il y a peu de professions où l'on se risque à exposer au jugement sa vision intime en la livrant publiquement. Peu de métiers aussi où l'on travaille corps et âme sans même savoir si au bout il y aura une galerie pour nous exposer, un éditeur pour nous publier, un théâtre pour nous jouer ou des radios pour nous diffuser. Pourtant, remettre inlassablement les compteurs à zéro malgré tout et à chaque ouvrage est intégré dans le processus créatif. Alors comment ne pas être admiratif devant tant de résistance, tant de recommencements et tant d'entêtement ? Car il en faut du courage pour lutter contre l'envie de renoncer. Mais les artistes sont portés par une sorte de foi presque irrationnelle, une foi à toute épreuve, une foi qui transforme le bruit en musique, un sentiment en poème, un corps en sculpture, un paysage en une explosion de couleurs. Une foi qui chasse le doute, qui pourtant revient sans cesse comme une vague qui anéantit tous les efforts. Une fois qu'il fait monter sur scène alors qu'on a envie de vomir de trac en coulisses. Ah, le trac, parfois il est si fort qu'on se demande pourquoi on s'inflige pareille torture, on a juste envie de mourir. Mais c'est là le point essentiel d'une vie d'artiste et c'est même sa condition existentielle. Il n'est jamais, jamais question d'être ou de faire autre chose. C'est ça ou rien. Parce qu'un artiste est indissociable de son œuvre au point de se laisser effacer par elle. Et puis un jour, alors qu'il aura tout donné pour qu'elle existe, cette œuvre finira par ne plus lui appartenir et paradoxalement, ce sera sa plus grande fierté. Alors oui, idolâtrons ceux qui naviguent entre le chaos et l'espérance pour réveiller, inspirer et libérer le cœur des hommes.
Mathilde Amet, merci pour ce poétique plaidoyer sur les artistes. Merci beaucoup Mathilda et on peut voir l'un des spectacles que vous avez créé, Écho, à Charenton, au Théâtre des Deux Rives. Ce sera le 14 mai à 20h30, ma chère Mathilda. Alors parmi les chroniqueurs et chroniqueuses autorisés à s'exprimer sur cette antenne, il y a Douli, ou pas?
C'est super, ça fait plaisir. Alors avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour notre cher Guillaume qui nous a quittés. Lui qui a toujours vécu dangereusement en faisant des blagues. Amen. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez télécharger ma voix sur Waze. Oui. C'est vrai. Et il y a des gens qui m'ont laissé des messages pour me dire qu'ils s'étaient fait arrêter à cause de ma voix d'éthylotest positif. Non, je vous jure. Il y a un mec, contrôle d'identité, lui flic lui demande ses papiers. Là, on m'entend dire dans la bagnole.
Zone de contrôle en vue. Planter le matos. Derrick a des jumelles. Je répète, Derrick a des jumelles.
le flic a dit votre femme est bourrée. Le mec répond j'ai pas de femme, je suis seul. Il a dû sortir. Ils ont tout checké. Le flic lui a dit me prenez pas pour un con. J'ai entendu un marginal vociférer. Non. Évitez de mettre ma voix dans Waze à proximité des contrôles routiers ou des écoles. Voilà. Du coup, quand j'ai appris il y a quelques mois qu'ils faisaient un casting pour la nouvelle voix de la RATP, j'ai postulé. Mais non, mais j'ai un boulevard, attendez, devant moi, filez-moi ça pendant les JO, qu'on rigole. Donc, je leur ai envoyé une petite maquette. Si tu comptes chanter La vie en rose avec ton piano à bretelles à 7h du mat, sache que la vie est une pute. Et que toute agression envers ta personne sera fortement encouragée. Porte de la chapelle, soyez vigilants à la sortie. Ne pas confondre Flexibus et Subutex. Le voyage n'est pas le même. Attention, j'ai pas fait que bourrer. Hein. Non. À tous ceux qui tentent de monter quand les gens descendent, quand le sac de course est déjà plein, il ne sert à rien d'essayer d'y rentrer une baguette. Marche aussi pour la sodomie. Ligne 9, direction mairie de Montreuil. Soyons attentifs ensemble. Des joueurs de molki peuvent se cacher dans la rame. N'agissez pas seul. Tous ensemble, dénigrez cette moustache dégueulasse et ces gros orteils de Birkenstock. Message for the tourists. Vous allez enjoy les crottes de chien, le crack mountain and le mister tout nu qui a jeté son caca on your face at Gare de Lyon. Amazing. Et alors, impossible bien évidemment de parler RATP sans évoquer le cas Pécresse. Elle a quand même dit, il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. Mais oui, mais c'est super ça. Et les gens qui ont des valises, ma valoche, hein? Les handicapés, les vieux, ils font quoi? J'ai vraiment envie de lui dire des trucs sombres. Mais vraiment, non mais je ne peux plus. Ben non, il paraît qu'il y a une trappe sous le siège de chaque humoriste de cette émission. Ah. Et valoche. Valoche a précisé, on a mis toute notre intelligence dans ce projet. Mais qui ont... Qui ? Tu fais bosser des enfants, Valoche ? Les fraudeurs, c'est des cacaboudins. Non, on a mis toute notre intelligence. Ah ben oui, on a vu ça, oui, des codes couleurs pour indiquer les lieux les plus empruntés pendant les JO. C'est de la mécanique de précision, ça, Valoche. Au fait, pour finir, petit message aux nageurs qui iront dans la Seine. Embrassez vos proches, vraiment. Non. On ne vous dira pas ce que les craquettes font dans cette flotte. Petit indice quand même, quand c'est rentré dans leur corps, ça ressemblait pas à ça. Voilà. Mes petits culs, je vous kiffe. Et comme disait Coluche, il faut arrêter de trouver des excuses aux imbéciles. Tu ne peux pas mettre une fleur dans un trou du cul et appeler ça un vase. Bisous.
Merci. Folie Bergère, le 31 octobre. Vous pouvez déjà réserver vos places.
Charline, je vous sens lointaine.
Non, pas tant. Je suis juste derrière vous, un peu perchée, car voici le moment où le studio se transforme en grande assemblée. C'est la Convention citoyenne que j'ai l'honneur de présider. Les manifestations de soutien à la Palestine qui ont lieu à Sciences Po et dans plusieurs universités à travers la France polarisent le débat. On va parler polarisation aujourd'hui et essayer de définir ensemble qu'est-ce que la polarisation. Allez-y. Ah oui, alors c'était là qu'il y avait la réplique donc de Guillaume. Il est bien placé parce qu'en plus, lui, c'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui est victime de polarisation. Alors, je vais vous donner la définition. C'est quand la société est organisée autour de deux pôles qui structurent complètement la vie politique et poussent à la radicalisation du débat. Exemple, Sciences Po, les réfugiés ou la lutte pour le climat. Et tout cela a des conséquences dans nos vies. Est-ce qu'il y a des exemples concrets à nous partager?
Oui, moi.
Oui, allez-y, monsieur. Oui.
Bah, pas plus tard qu'hier au supermarché.
Attendez, la polarisation au supermarché.
Ben pourquoi pas ? Oui, madame. Rayon fruits et légumes. Les fruits d'un côté, les légumes de l'autre. Aucune communication entre les deux.
Alors, là, je vois pas en quoi c'est un problème.
Ben, les tomates, madame.
Ah, oui.
Ce sont des fruits. Et on les range avec les légumes. Alors moi, je vais vous dire, ça me révolte,
je comprends,
ça, moi.
Je comprends,
ça me révolte.
Écoutez, organisez une manif à Auchan, puis pendant ce temps-là, nous, on continue, si vous voulez, voilà. Alors, est-ce qu'à titre personnel, on peut arriver à vous faire changer d'avis lors d'un débat, par exemple ?
Ben, ça dépend. En ce qui concerne l'immigration, moi, par exemple, certainement pas, parce que je suis du côté du bien.
Ah, enfin, c'est facile à dire, ça. C'est quoi votre camp du bien à vous ?
Je suis du côté de ceux qui veulent accueillir les étrangers en détresse, le côté
du
bien.
Ah non, mais non, mais c'est pas ça du tout, le camp du bien. Moi, je suis dans le camp du bien.
Oui, alors attendez, et c'est lequel le vôtre de camp du bien ?
Eh ben, moi, je veux qu'on assure d'abord la sécurité des Français avant de penser aux étrangers.
Oui, vous êtes une facho, quoi.
Qu'est-ce qu'elle a, la gauchiasse ?
Ah non, vous allez pas commencer, hein ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme compromis qui pourrait vous rassembler je sais pas moi. Bah, par exemple, accueillir les étrangers en détresse tout en assurant la sécurité des Français.
Oui, bien sûr, non mais l'autre, n'importe quoi.
Ah ouais, ok, donc vous êtes dans le camp des bisounours, quoi.
Carrément, bien vu, pas mal.
Vous voyez, finalement, j'ai réussi à vous fédérer, vous voyez. Alors, contre moi, mais je vous ai fédéré quand même. Est-ce que seuls les extrêmes sont responsables de cette polarisation ?
Non, moi, par exemple, je suis partisane de l'extrême centre.
Ouh là, c'est quoi ça encore ?
Ah ben, je suis radicalement neutre.
C'est-à-dire, vous avez un avis sur rien ?
Je dirais pas ça. Sur rien, c'est déjà beaucoup trop tranché. Non, disons que j'ai un avis modéré sur quelques sujets, mais pas non plus sur tous.
Ah ok, voilà. Donc vous êtes constamment entre deux eaux, quoi.
Je sais pas, peut-être. Oh, c'est pas facile à décider.
Bah, par exemple, si je vous demande s'il faut taxer les riches ou s'il faut moins aider les pauvres, vous répondez quoi ?
Bah, alors, moi, si je puis me permettre, moi je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Voilà. Mais je ne suis pas sûre non plus.
Attendez, vous êtes extrême centriste aussi, vous, comme madame.
J'hésite encore. Je ne sais pas, entre extrême centre et de centrisme radical.
Non, c'est très énervant de discuter avec vous, je vous le dis.
Oh, bah là, je suis désolée. Hein. Non, et là, c'est vous qui manquez de nuances.
Okay, très bien. Bon, écoutez, on va se pencher sur un cas pratique alors. Hein, les manifestations à Sciences Po, c'est ça ? Avec Jamil Le Schlag.
Merci, Charline. Ouais, les gars, c'est incroyable. En ce moment, il y a des manifs pro-palestiniennes à Sciences Po et certains sont outrés. Quoi ? Ils ont une conscience politique à Sciences Politiques ? Mais ce n'est pas l'information principale de la semaine. Guillaume Meurice, mis à pied en vue de sanctions disciplinaires. Mais on est où ? Au collège Jules Ferry ou quoi ? À ce qui paraît, la CPE, Adèle Van Riet, l'a chopé dans les couloirs. Meurice, ton carnet de liaison, 15 jours de compte, t'entends ? La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, attends. En fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter. Non, mais les gars, Et je vais envoyer mon CV à Pascal Prout. Et tout de suite, dans l'heure des pros, on accueille Jamil Le Schlag. Eh les gars, c'est incroyable, vous avez vu? Il y a trop d'arabes. Ouh, je m'adapte, man, bordel. Eh, France Inter, ils font trop rire. Oh, le double discours, vraiment, tu sais, des macronistes. Bon, je suis à deux doigts de voter Marine. Alors, la direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. C'est pas l'esprit Charlie, c'est l'esprit Charles Pasqua. On va terroriser les humoristes. Wouh ! Vanne public, c'est là, putain. Ah mais perso, hein, pardon, hein, j'ai pas le temps les amis parce qu'on a que 3 minutes. Je vois pas ce qui est choquant à comparer Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Parce que cette phrase, hein, je mets des guillemets, sorte de nazi sans prépuce. Oh, c'est ma dernière chronique en fait. Non mais attends, cette phrase, pardonne-moi. Non mais bah, vous voulez du sang, t'sais. Cette phrase n'est pas offensante. Et je sais de quoi je parle. Moi-même j'ai pas de prépuce. En tout cas, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Meurice, cet homme sans gluten, passe pour le méchant et Netanyahou pour le gentil, tu sais, pour la victime. Parce qu'avec ou sans prépuce, Netanyahou, c'est quand même le bad boy dans cette affaire. Le bad boy d'Israël, canaille, un mauvais garçon. Bon, après, faut avoir les références d'Ayam. Mais, attends, ils sont tous sur ses côtes, les ONG, la CPI, l'ONU, le FBI. Et lui, il est là. Hey, je m'en bats les couilles. De toute façon, vous êtes tous des antisémites. On dirait moi en primaire quand on m'accusait de vol de goûter. Alors que c'était vrai. Ma ligne de défense était simple. Ah, vous êtes tous des racistes homophobes. Ouh, contre Kem, c'est oui, Bibi. Tu crois c'est toi qui as inventé cette technique, bordel? Netanyahou, c'est un gangster. Tu sais, il voulait éliminer un cadre du Hamas. Il a pas réussi. Du coup, il a fait tuer ses petits enfants. Putain. Même Pablo Escobar, il était choqué. Hola, Bibi. Tu dépasses les limites. Despacito, calmate. Suaremente, besame. Que quiero sentir tus labios. Eh oui. Un peu de douceur latina dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Bref, je reviens sur la direction de France Inter. J'ai pas fini avec vous. Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être viré. Et ça, depuis ma naissance. J'ai le cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Alors, je voulais dire merci, bien sûr, à toute l'équipe pour l'ambiance incroyable durant ces 3 ans. Mais maintenant, dans cette station, je me sens plus dans mon safe space. Tu sais, j'ai pris ma décision il y a 1 heure. Je suis passé devant le bureau de la directrice de Radio France. J'ai vu un poster. Macron 2027. J'ai dit non, voilà, Jamil. Et il tente de se barrer. Alors merci aussi aux auditeurs. Je continue bien sûr mon parcours de troubadour. Hein. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Jamil, MySpace. Jamil, je suis partout, sa mère.
C'est le journal.
Alors merci à tous et surtout, n'oubliez pas que vous aurez toujours la liberté de prendre vos places pour venir voir mon spectacle partout en France. Auto-promo. Merci.
Une précision sémantique pour nos auditeurs, que la sanction de Guillaume Meurice émane de la présidence de Radio France et non pas de la direction de France Inter. Voici le journal.
Le grand dimanche soir. France Inter,
il est 19h19. La suite du grand dimanche soir, c'est en direct et en public. Du studio 104 de la Maison de la Radio, revoici Charline Vanhoenacker.
Merci mon cher Eric Delvaux et merci à toute la rédaction de France Inter. Nous avons débattu en première partie sur le thème de la polarisation. On va voter si vous voulez. On va tout simplement... Tiens par exemple, voilà, par applaudissement, qui est pour le maintien de la polarisation dans les débats? Qui est contre la polarisation? Hein, comme quoi, il y a beaucoup de modérés. Eh ben, cette proposition est donc rejetée. Et c'est le grand dimanche soir qui continue jusqu'à 20h dans vos oreilles à la radio, bien sûr, et en vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter. Avec ce soir, Juliette Arnault, mais sans Guillaume Meurice, avec Aymeric Lompré, Mathilde Amet, Douli, Djoubaka et Guédré. Il y a aussi Thomas Bideguin qui nous a rejoint, et dans la salle, Laëlia Véron et Frédéric Fromet. Merci d'être là. Et puis le groupe Lescope nous a promis une reprise en live. Et notre invité, nous avons la chance ce soir d'avoir, je vous laisse l'accueillir, Léa Drucker.
Bonsoir. Merci.
Le grand dimanche soir. Charline Van Macker.
Bonsoir Léa Drucker.
Bonsoir Charline.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'affiche de deux films.
Oui.
L'un est sorti la semaine dernière. Il s'intitule Le tableau volé de Pascal Bonitzer avec Alex Lutz et Nora Hamzaoui. Et le 8 mai prochain sort en salle Un homme en fuite. Alors le 8 mai, Un homme en fuite, je vous vois venir, c'est peut-être fait pour moi, c'est un petit accent belge. C'est le premier film de Baptiste Debrot.
Oui.
On est dans les Ardennes. La petite ville de Rochebrune est en plein chaos social. Le leader de la contestation, Johnny, a disparu après avoir braqué un fourgon. Son ami d'enfance, Paul, revient en ville après 15 ans pour essayer de le retrouver avant la police. Et la police...
C'est moi.
C'est votre personnage, Anna Werner. Alors... Léa Drucker en flic, enfin en gendarme, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Dressez-nous un peu le portrait de...
De Anna ?
Ouais, de cette femme que vous incarnez, de cette gendarme. Bah,
écoutez, c'est une femme, c'est une femme qui est dans sa fonction, on me voit plutôt dans le costume civil, hein,
oui.
Mais qui revient dans cette ville de Rochebrune pour enquêter, en effet, sur cette affaire de braquage et de ce Johnny qui a disparu, qui est interprété d'ailleurs par Pierre Lottin, qui est un merveilleux acteur. Et qui, en faisant cette enquête, va se reconnecter aussi à son enfance et à son passé. Et c'était aussi le cas c'est aussi le cas du personnage de Bastien Bouillon, qui joue ce jeune écrivain qui lui aussi a quitté cette région, cette petite ville des Ardennes. On a tous un peu quitté cet endroit pour faire notre vie, moi pour devenir gendarme et Bastien pour devenir jeune écrivain. Et on est en même temps confronté, enfin moi je suis confrontée à cette enquête et en même temps confrontée au milieu que j'ai essayé de quitter, qui est le milieu de mon père, qui était un ouvrier. Et moi j'ai, voilà, on peut imaginer les conflits intime qu'il y a eu, mais tout ça au travers de cette enquête.
Et comment est-ce qu'on incarne l'autorité ?
Alors on sait. Alors...
Ah, ça vous fait rire cette question. Je savais que ça vous ferait rire cette question.
Je l'ai. Comment dire ? Exploré plusieurs fois.
C'est pour une amie. Je vous en prie.
Non, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on essaie justement de pas trop la montrer, l'autorité qu'on l'a, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont la fonction, qui sont gendarmes ou qui sont. Enfin, moi, j'essaye de pas montrer. Je fais pas que froncer les sourcils. J'essaie de trouver plutôt la sensibilité qu'il y a derrière le costume et qu'il y a derrière cette fonction, qui est une fonction autoritaire, et de trouver qui est l'humain qui est là. C'est ça qui m'intéresse.
Et un peu l'ironie aussi.
Et parfois l'ironie, bien sûr.
Donc, le film s'appelle Un homme en fuite, et vous êtes la personne qui cherche à le retrouver, ce Johnny qui a disparu. La nature semble l'avoir avalé, et franchement, il y a un travail esthétique somptueux.
Ouais.
La lumière, elle est dingue dans ce film. Tant sur la ville prise par les brumes que sur la forêt, les rivières, les brumes, les Ardennes, la Meuse.
L'automne aussi.
Ouais. Vous aviez conscience avant de tourner qu'il allait autant s'appliquer avec le chef-op à faire une lumière qui est quasiment un personnage à part entière de l'histoire.
Ah, complètement, mais c'est les choses dont on a le plus parlé en préparation, et Baptiste qui vient de là, qui connaît très bien cette ville où on a tourné, qui a grandi là-bas, n'arrêtait pas de me dire tu vas voir les Ardennes, c'est extraordinaire, et avec mon chef opérateur Fabien Benzaken, on va magnifier cette région.
qui est de toute manière magnifique. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à la gare et qu'on m'a emmenée jusqu'à l'hôtel où j'allais rester pendant le temps du tournage, tout d'un coup, j'étais déjà dans un film, j'étais dans Twin Peaks, j'étais dans un univers hyper cinématographique, un peu beau, étrange, inquiétant, et en même temps, c'est un lieu. Dans ce lieu dans lequel on a tourné, c'est aussi un lieu qui est chargé d'histoire, des luttes ouvrières, de ces usines qui ont fermé, mais aussi de l'histoire de la Première Guerre mondiale, où il y a eu tellement de gens qui...
Que des choses gaies.
Certes, c'est pas gay, et à la fois, il y a une force de vie aussi qu'on trouve là-bas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont résisté, c'est ce qu'on montre aussi dans le film, âprement. Ça n'est pas que triste, la force de vie. Je trouve que c'est aussi très courageux et très... j'ai trouvé ça assez... étonnant et envoûtant, en fait.
À voir sur les écrans mercredi prochain, donc, Un homme en fuite, de Baptiste Debrault, avec Léa Drucker, notre invitée, avec Bastien Bouillon, Pierre Lottin ou Marion Barbeau, entre autres. Chère Léa Drucker, je vous raconte une petite histoire. Bon, jeudi matin, Guillaume Meurice arrive au bureau, puisque c'est l'heure de sa chronique, là, normalement. Il arrive au bureau, il vient de rentrer de reportage avec plein de petits sons dans sa besace, comme d'habitude. Quand arrive une convocation, il est sanctionné pour faute grave de la part de la... cela émane de la présidence de Radio France, pour avoir fait une blague que la justice lui autorise à dire, puisqu'elle est classée sans suite, cette plainte à son encontre. On a les sons du reportage de Guillaume, et Guillaume, en bonne concertation, on a décidé, nous, et j'ai validé, parce que j'ai de l'autorité, vous l'avez vu, de confier ces sons à Émeric pour qu'il en fasse un peu de comique d'investigation.
Bonjour à tous, vous allez bien ? J'ai rien entendu ! Eh, vous devez deviner qui je suis. Ni ni ni, j'ai des pulls moches et je mange que des graines. Émeric Lompré. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais Guillaume, il est pas là. Et contrairement aux souhaits de la direction, Gaspard Proust n'était pas disponible, Michel Leeb non plus, Finn Kalkroth non plus, Bruno Le Maire non plus, Bardella non plus, Dark Vador non plus, Voldemort non plus. Vous avez compris. Donc, c'est moi qui vais le remplacer. Et ça tombe bien, j'ai récupéré ces enregistrements parce que Guillaume, avant de se faire convoquer chez la CPE et de se faire coller 4 heures, il avait commencé à préparer sa chronique. Parce qu'il bosse énormément. Pas comme cette énorme merde d'Émeric Lompré qui se contente de faire des mimiques et une grosse voix. Après, c'est Guillaume qui écrit. Hein. D'ailleurs, Netanyahou, c'est une sorte de... Non, allez, on se concentre. Bon, Guillaume, ce qu'il aime faire, c'est des micro-trottoirs. Alors là, il aurait voulu parler de Sciences Po et des étudiants qui bloquent. Il est allé voir le peuple de France.
Je suis un ancien élève de Sciences Po et je trouve que mon diplôme en prend un sacré coup. L'école n'aura plus aucune réputation positive.
Ah, vous pensez que c'est à ce point-là ?
À ce point-là.
Est-ce que c'est pas normal que des élèves de Sciences Po se politisent ?
Non.
Ah, j'avoue, c'est chaud. Tu sais, c'est comme si on était payé pour faire de la satire politique et puis quand on l'en fait, on se fait dégager. Ah, ça n'aura aucun sens. Allez, allez, on continue.
C'est un lieu, les lieux d'enseignement ne doivent pas être un lieu politique.
Mais alors là, c'est science politique, justement.
Oui, mais merci du jeu de mots. Oui, et justement.
Bon, voilà. J'ai rien compris. Bon, après, il faut admettre qu'il est dur, son taf. Moi, je comprends rien. Tu sais, on dirait du Gabriel Attal mixé avec du vomi. Enfin, du Gabriel Attal, quoi. Allez, on continue.
C'est nul. Qu'est-ce qui est nul, alors ? Il faut laisser étudier les gens. Ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à partir là-bas.
Partir où ?
En Palestine.
Ouais, mais alors, ouais, il y a plus tellement de Airbnb, quoi.
On s'en fout.
C'est vrai qu'en ce moment, à Gaza, c'est vrai que les prix, c'est pas cher, mais il faut y aller que c'est parpaing, quoi. Ça, c'est, il y a tout à reconstruire. On dirait Saint-Etienne, mais vu sur mer. C'est Guillaume qui a écrit. Allez, on continue. Je vous rappelle que Valérie Pécresse a coupé les subventions pour Sciences Po.
Une sanction.
C'est une sanction, ouais.
Une sanction.
Alors, elle l'a pas fait pour Stanislas, l'école Stanislas, quand il y a eu des plaintes pour discrimination homophobe.
Oui, oui. Vous savez, on peut pas tout réussir dans la vie, hein.
Et non, mais il y a un droit à l'erreur. Vous ne faites jamais d'erreur, vous. Ah là là, j'ai égaré mes lunettes. Ah là là, j'ai trop cuit mon gâteau. Ah là là, j'ai subventionné les fachos. Flûte alors. C'est l'erreur. On est dans une société qui ne tolère plus ça. Une société intolérante. Surtout à Sciences Po.
On assiste un peu à la même chose avec le wokisme, en fait.
Mais c'est quoi le wokisme, exactement ?
Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a derrière le wokisme ? Il y a le... Bon, la...
la question des femmes, la question de l'avortement, la question de l'anticolonialisme, enfin...
Ah oui, ça fait peur, ça.
C'est pratiquement acceptable, en fait, pour te dire.
C'est clair, les femmes, l'avortement, le colonialisme. Et gnie, on a souffert. Gnie. N'empêche que moi, les femmes, j'aime bien parce qu'on voit leur totote. C'est Guillaume qui écrit. Et la colonisation, ça fait des super albums de blues. Hein, Job? Allez, on conclut, je crois qu'il est temps.
Tous les trucs qui sont un peu fascistes, j'allais dire.
Le wokisme est un fascisme.
Absolument, oui.
Oui, le wokisme est un fascisme. Vouloir la paix dans le monde, l'égalité et la justice, ça c'est être fasciste aujourd'hui. Vouloir porter des pulls moches et bouffer des graines, ça c'est le vrai visage du fascisme aujourd'hui. Donc merci à toute la direction de Radio France et de France Inter de lutter contre ça. No pasaran, les bisounours. Merci d'avoir écouté.
C'était Émeric Montpret avec les petits sons et les grands sons parfois de Guillaume Meurice. Bring back our Guillaume. Sinon, il y a une question que personne ne se pose, mais moi, je suis inquiète. Que va devenir Roger? Vous voyez, ça pose plein de questions. Merci. Nous sommes en compagnie de Léa Drucker, qui est toujours à l'affiche du tableau volé, en salle, au cinéma. Et mercredi prochain sort Un homme en fuite, premier film de Baptiste Debrault, qui se passe dans les Ardennes.
Donc, L'homme en fuite, c'est Johnny.
C'est Johnny.
Et... Oui, j'ai dit Johnny.
Non, absolument.
Ah, ça.
J'approuve vraiment ce que vous dites.
Il a noué une amitié immense avec un autre gamin quand il était vraiment gosse, autre gamin outsider pour d'autres raisons que lui. Lui vient d'une famille super fragile. Le Paul, qui va devenir écrivain, lui vient d'une famille bourgeoise, mais il est rejeté parce que justement il est le fils d'un patron. Il noue une amitié terrible avec au centre un roman de Stevenson qu'on est beaucoup à avoir lu quand on était petit, qui s'appelle L'île au trésor. Et ils finissent par se fabriquer, trouver une île, y mettre potentiellement un trésor. Ça, on va laisser ce suspense. Et votre personnage, à un moment, se retrouve sur cette île, au milieu de cette, avec la cabane. C'est un lieu à la fois très cinématographique et on a tous rêvé de ça, d'avoir une cabane cachée loin du monde des adultes. Ça vous a fait quoi, vous?
J'ai adoré ça. Et en plus, j'ai pu voir Bastien Bouillon qui jouait du piano en pleine nature, au milieu des bois, parce qu'il y avait un espèce de vieux piano. Ça, c'était entre les prises, c'est pas dans le film. Mais c'était un lieu assez magique. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs, dans le film que Baptiste a fait et qu'il avait écrit. C'est le mélange du romanesque avec le réel. C'est-à-dire que c'est aussi des gens des personnages qui essaye de fuir le réel, notamment le personnage de Bastien Bouillon qui est devenu écrivain.
Quelle merveilleuse manière.
Bah oui,
fuir le réel.
et le prétexte de ce livre permettait, je pense, à Baptiste Debrault d'écrire à partir d'une situation sociale qui est réelle, qui est très dure et qu'il a très bien connue, de s'échapper vers quelque chose de plus romantique et qui fait un grand film de cinéma, je trouve.
On a l'impression que tous les personnages, à un moment ou à un autre, ont du mal à... Ils font sans arrêt des allers-retours. Les deux garçons, c'est entre leur enfance et ce qu'ils sont devenus. Johnny, qui est au milieu de la lutte sociale. Paul, qui ne sait pas trop que faire de cet endroit d'où il vient. Et même votre personnage, qui est toujours à cheval entre sa fonction et sa mémoire qui se réveille à partir du moment où elle revient à Rochebrune.
Mais oui, je crois qu'ils ont beaucoup de culpabilité, en fait. Ils ont de la culpabilité d'avoir quitté, d'être parti. Et je crois que ça arrive à plein de gens, de quitter l'endroit d'où on vient. Et puis quand on... Voilà. Donc le film traite de ça aussi. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est raconté de façon comme c'est par impression, en fait, qu'on raconte ces personnages. Et puis c'est des histoires de point de vue. Johnny est tantôt vu comme un... de mon point de vue comme un criminel, mais pour d'autres c'est un héros, puisque c'est quelqu'un qui est le symbole de la lutte sociale qui est en cours.
Potentiellement c'est les deux en même temps. Ouais.
C'est pardon ?
Potentiellement c'est les deux en même temps qui...
Oui. Est. Oui. C'est polarisé, je trouve, quand même. Mais c'est vrai. Et ces endroits qu'on quitte et qu'on retrouve aussi, ces gens qu'on quitte et qu'on retrouve, donc à l'affiche dans les salles, mercredi, Un homme en fuite.
Et je voudrais ajouter que la musique, alors ça c'est vraiment un luxe incroyable, on a eu Feu Chatterton qui ont composé la musique du film.
une fois que le film était tourné, ce qui est assez rare, donc ils sont venus en studio, ils ont été inspirés par le scénario et par le film, ils ont vraiment fait une bande originale magnifique.
Et vous m'offrez une transition merveilleuse, quel beau travail d'équipe, ma chère Léa Drucker, car le groupe Lescope, pendant vos propos, nous a rejoints sur scène en direct sur France Inter du studio 104 pour nous proposer Lescope, une reprise, laquelle, Joub?
Un de vos groupes préférés, Charline, ça va vous faire du bien. Alors moi, par contre, il va falloir que je m'y fasse. Donc le groupe Nagara connaît un retour de flamme. Et en 88, sur leur album « Quel enfer », il y avait une chanson, « Soleil d'hiver ». Alors, c'est une chanson intime sur ce à quoi pousse la solitude. Je vous laisse comprendre les paroles, ça donne tout le ton de la chanson. Lescope, c'est à toi.
Produit l'album aussi. L'album Rêve Parti, si on a entendu une reprise de Niagara, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France, à l'UMB Canois le 16 mai, à La Rochelle le 12 juin, le 14 juin ce sera Saint-Brieuc, La Maroquinerie 27 et 28 mars. Et ce magnifique album Rêve Parti qu'on entend aussi sur France Inter. Merci Lescope.
Merci,
merci infiniment. Merci aussi aux techniciens qui préparent les lives et la prise de son, Clément Berman et Maxime de Peretti, sonorisation Jean-Benoît Tétu, parc instrumental Arthur Gousset, backline Zachary Hitter. On a été pris par le temps et le journal et j'ai pas eu l'occasion de dire merci à Jamil Lechlag pour toutes ces belles chroniques avec nous au sein de l'émission. Voilà, je l'embrasse. C'est le moment que le public du 104 attend et vous aussi. Voici le jeu 100 euros.
Oui, merci Charline. Et bienvenue à toutes et à tous dans notre jeu. Le jeu 100 euros, le jeu qui fait les heureux, mais pas les euros. Bonjour Guillaume.
Voilà, vous êtes dans le déni aussi comme moi. Vous êtes toute seule Juliette aujourd'hui.
Alors, Charlie, j'ai beau posséder en tant que femme hétérosexuelle un master 2 en simulation.
Oui.
Là, je dois avouer que ça gratte. C'est pas grave. Bref, j'ai sélectionné la crème de la crème, une candidate dans le studio 104 de la maison de la radio et de la musique. Bonjour, et comment vous appelez-vous ?
Je suis Guillaume Meurice.
Alors, si quelqu'un m'écoute à la direction, cette personne ment en allemand, et dorénavant, je vous appellerai Nassira El-Moedem. Et Juliette, nous jouons pour quel cadeau ? Alors Juliette, c'est vraiment un cadeau incroyable, autant sur le plan esthétique qu'émotionnel, puisqu'il s'agit du portrait de mon co-animateur préféré, Guillaume Meurice, alias Louchon. Et on commence avec la première question, Juliette. Nassira, plusieurs bonnes questions sont possibles. C'est une question très simple. Qui a été mis hors jeu cette semaine ? Ouais, bon, si vous voulez. Le joueur du PSG, Lucas Hernandez, à cause qui s'est fait les ligaments croisés comme tous les hommes hétérosexuels que je connais. Est-ce que c'est Guillaume Meurice ? On ne connaît pas la raison, mais on a une petite idée à base de prépuce. Est-ce que c'est la liberté d'expression ? Quelle est votre réponse, Nassira ?
Eh bien, Juliette, je crois que les trois réponses sont justes, mais qu'il y en a une quatrième. Retour à l'antenne de notre camarade.
Eh bien, j'accepte cette réponse. Le problème, c'est que le score est serré. Alors, pour vous départager, Nassira El-Moedem, j'en appelle à la question...
Bonus.
Combien ? La question est la suivante, concentrez-vous tous, parce que franchement, elle est super compliquée. Combien de micro-trottoirs Guillaume Meurice a-t-il produit sur France Inter ? Votre réponse, Nassira.
1235.
La bonne réponse est 1532, dont 1234 avec Edith, mais vous êtes seul à jouer, et donc c'est vous, Nassira, qui gagnez ! Vous avez gagné ce magnifique cadeau. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le jeu 100 euros et sans Guillaume. Le jeu qui fait des heureux, mais pas des euros et pas des Guillaume. Hey.
Merci Juliette Arnaud d'avoir pris sur vos épaules cette séquence. Alors, il faudrait quand même, je vous dise, si on fait de Guillaume Marty, de Guillaume Meurice un martyr de la liberté d'expression, je vous préviens, il va finir comme Jésus. C'est-à-dire en slip, vous êtes bien conscient de tout ça.
Il a passé 33 ans, ouais, c'est impossible.
Ouais, il y en a un qui transforme l'eau en vin et l'autre les blagues en frais d'avocat. Donc, mais voilà, s'il finit martyr, comme ça vous êtes prévenus, les amis. Léa Drucker est en notre compagnie et on parle de ce film Un homme en fuite de Baptiste Debrot qui sera sur les grands écrans la semaine prochaine. Vous incarnez une gendarme dans les Ardennes. C'est le premier film de Baptiste Debrot.
Oui, c'est son premier film.
Alors, vous êtes une actrice très populaire, Léa Drucker, et vous êtes très demandée. D'ailleurs, elle a toujours à l'affiche le tableau volé aussi, deux semaines d'écart. Vous, comment, quel geste c'est, quelle décision c'est d'accepter un premier film ?
Parce que alors, moi, c'est un bon scénario que j'accepte. Hein, mm-hmm. Je suis pas, je me dis pas, tiens, je vais faire un premier film. C'est juste que je reçois un scénario qui me plaît. Et que là, en l'occurrence, Baptiste, par exemple, il m'avait envoyé une lettre qui m'a beaucoup plu et puis après on s'est rencontré, il m'a parlé de son parcours et puis je pouvais faire le lien entre son parcours et le film que j'avais lu et puis on a discuté de cinéma, souvent c'est une conversation de cinéma, qu'est-ce que t'aimes, moi j'aime
c'est comme ça qu'on vous convainc.
Parfois, c'est assez simple, mais c'est quand même l'écriture qui me touche. Et puis, c'est vrai que les premiers films, moi, j'ai l'impression, je me dis, bon, là, en ce moment, j'ai la chance d'avoir le choix de ce que je fais. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais quand tu as le choix, je trouve que c'est important d'aller faire des premiers films. Parce que c'est comme ça qu'émergent des nouveaux talents et des nouvelles réalisatrices et des réalisateurs qu'on est bien heureux d'avoir dans notre monde du cinéma français, quoi. Donc j'espère continuer à en faire, mais avant toute chose, c'est pas une démarche, vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc vraiment parce que j'ai aimé le scénario, puis j'ai aimé la rencontre, j'ai aimé le casting aussi.
C'est important les scénarios. Hein.
Voilà. T'as ma vie de gars.
Non mais tout le monde a l'air de s'en foutre tout le temps alors.
malheureusement. Parce
heureusement
que c'est...
qu'il y a des actrices qui lisent.
Ah ouais.
Et est-ce que ça compte justement dans l'écriture du scénario que le personnage que vous incarnez, donc une gendarme, ne soit à aucun moment décrit sur, on va dire sur les truc qu'on a, que d'habitude on offre au rôle féminin, c'est-à-dire qu'elle est gendarme, on voit le rapport qu'elle a avec son père, sa mère, cette terre, Rochebrune, mais sinon on ne sait rien de sa vie privée, on ne sait rien de sa sexualité, on ne sait... Ça compte pour vous aussi ? Ça peut tout à coup...
Bah, elle a pas le temps,
il pourrait jouer par un homme, en gros.
Elle n'a pas le temps dans le film, moi, je vous le dis.
Non, là, c'est sûr qu'elle n'a pas le time, mais...
C'est intéressant, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, de distiller des choses intimes, et d'un personnage sans que ce soit forcément raconté dans les dialogues et qu'on ait des impressions. Voilà, parfois c'est hyper intéressant de faire ça et amusant de voir, alors que tu as des scènes informatives et tout ça, comment tu peux raconter quelque chose de cette personne où je pense qu'un spectateur va, ou une spectatrice va avoir une impression de quelque chose. Moi j'ai ça quand je vais voir au cinéma, j'ai des fois on me raconte pas tout, j'ai pas 14 explications, mais je ressens quelque chose. Donc c'est ce que j'essaye parfois de faire.
Non, parce que je repensais à la scène où vous êtes dans le bar, typiquement, et vous êtes un peu charrié par deux types ayant un peu bu et disant des choses pas très malines, et vous avez une manière d'être derrière un bar où on se dit « Ah, elle a l'habitude !»
Ah, bah, j'ai été dans des bars.
Non, mais pas vous,
le personnage. Vous le faites bien. Si vous le faites pas dans la vie, vous le faites bien, les
confessions intimes. Non, mais oui. Mais ça raconte quelque chose. Ça raconte aussi ça peut raconter une solitude, ça peut raconter
une détermination.
Oui, et puis un... Encore une fois, c'est quelqu'un qui a dû donner un coup de pied pour partir de chez elle, hein, qui a fait un choix difficile. Son père était ouvrier. Elle a choisi d'aller vers la police. Le père était quand même un ouvrier qui se battait pour empêcher que l'usine se ferme, etc. Donc on peut imaginer d'où elle vient et d'où, enfin, les conflits intérieurs du personnage.
Et on peut donc le qualifier de polar social.
Oui.
Voilà, très bien. Un homme en fuite avec Léa Drucker. Nous sommes dimanche soir, 19h47, donc à l'heure où on parle, il y a des rédactions qui préparent leurs éditions de demain matin. On va se rendre dans quelques-unes de ces rédactions.
Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Actualité.
Donc, en fait, moi ce que je voulais dire...
On a dit silence jusqu'au 16 mai.
Oui. Pendant ce temps-là, chez Liberté d'Expression Magazine.
Bonjour, l'équipe de Liberté d'Expression Magazine est en congé jusqu'au 16 mai 2024. En cas d'urgence, vous pouvez contacter Mediapart, Arrêt sur Image ou Libération. Merci.
Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Actualité.
Non, mais en fait, moi, ce que je voulais...
Tu continues, je t'envoie recommander. Je jure, hein, vraiment.
Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Édition. Là, à la rédaction de CNews.
Bon, alors on a bien bossé cette semaine avec Guillaume Meurice et Nasser El Mouadem. On s'occupe de qui cette semaine ?
Jamil Le Schlag.
Pour laquelle des raisons ?
Parce qu'il est arabe.
Non, ça c'est pas suffisant.
Ah si, non, si, d'habitude on fait comme ça. Ou alors Walidia, parce que...
Oui, je sais, mais c'est pas suffisant.
Ah non ? Et si on s'occupait de l'autre gros dégueulasse, hein, comment il s'appelle déjà?
Michel Houellebecq?
Non, il porte toujours des t-shirts crado, là, il picole tout le temps, c'est un enfer.
Ah, Gérard Depardieu?
Non, celui qui se fait appeler genre le nouveau Coluche.
Ah, mais bien sûr, mais ça c'est Émeric Lombrey.
pas d'applause aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, je suis triste. J'ai le cœur gros. Il est gros comme ça, mon cœur. Même mon médecin, il s'inquiète. Il me dit toujours, Monsieur Lompré, la couenne de jambon, ça ne se mange pas. Après, moi, je suis là. J'ai pas à me justifier. J'arrive pas, je suis trop triste. Non, c'est parce qu'en fait, moi, Adèle vend des frites, je l'adore. Et tu vois, Guillaume Maurice aussi, je l'adore. On peut pas choisir, c'est impossible. Tu sais, c'est comme si on te dit, tu préfères toute ta vie, tu manges de la couenne de jambon, ou toute la vie, tu manges ce que tu veux. Moi, je pense, non, en fait, moi, je pense, voilà, je pense simplement, il y a eu un malentendu. Voilà, vous savez ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression qu'en fait, la direction, tout simplement, elle a pas compris la blague. Et ça arrive, c'est humain. Moi aussi, ça m'arrive de pas comprendre des trucs. Tu sais, par exemple, je vois des gens, parfois, ils enlèvent la couenne du jambon. Après, ça m'arrange parce que je leur dis, je peux manger votre couenne. Et ça fait des chouettes rencontres. Alors, du coup, je vais expliquer la blague à la direction.
Et à la présidence aussi, s'il vous plaît.
Et à la présidence.
Plutôt, ouais, plutôt la présidence. Ouais.
Alors, puis en plus, c'est bien connu, quand une blague est expliquée, c'est encore plus drôle. Alors, la blague de départ. Alors, la blague de départ, c'est Guillaume qui dit « Netanyahou, c'est une sorte de nazi sans prépuce ». Alors, prenons la première partie. « Netanyahou, c'est une sorte de nazi ». Tiens. Alors, il y en a, ils se disent « Mais ça peut pas être un nazi parce qu'il adhère pas au parti national-socialiste allemand d'Hitler ». Oui, c'est vraiment... Alors, ceux qui disent ça, je vous déconseille de vous lancer dans l'humour. Hein, voilà. Et soyez pas déçus s'il y a personne à votre anniversaire. Moi, ce que je pense, c'est que Guillaume, il voulait pas dire que c'est un vrai nazi d'Hitler. Non. Déjà, parce que Netanyahou, il était même pas né. Netanyahou, il est né en 49, juste après la signature de la Convention de Genève. D'ailleurs, pour ça, peut-être le mettre au courant de ça aussi. Attends. Moi, je pense que Guillaume, il faisait référence au nationalisme, au colonialisme, au bombardement d'hôpitaux, d'écoles, d'immeubles, de l'utilisation de la famine comme arme de guerre, aux 40 000 morts, dont 12 500 enfants. Et à mon avis, sur le moment, Guillaume, il s'est dit, tiens, c'est plus proche du nazi que du chenapan. Après, Guillaume, il a dit, sans prépuce, tiens. Là, c'est le mécanisme humoristique en place, c'est l'opposition frontale. Nazi, sans prépuce, nazi. Voilà. Et il est clair que pour la plupart des gens, les nazis d'Hitler n'aimaient pas les gens sans prépuce. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est assez stupide d'appeler les féministes des féminis nazis, hein, car normalement, les filles, elles préfèrent quand il n'y a pas de prépuce, à cause de l'odeur. Après, peut-être la direction, et c'est là où ça coince, elle a compris sans prépuce, mais sans le chiffre. Alors, c'est vrai que sans prépuce, c'est trop. Déjà, un, tu sens le fromage, alors sans, c'est une cave d'affinage. Donc, un point pour la direction. Mais c'est le seul, hein. Donc voilà, maintenant que c'est plus clair pour la direction, peut-être la direction, elle va rigoler et dire « Mais oui, j'ai surréagi. Pardon, Guillaume. Allons se serrer la main. On va quand même pas se fâcher à cause d'un nazi sans prépuce. Hein » Merci de m'avoir écouté.
Aymeric Lompré, merci pour votre soutien à notre camarade. Et merci à Léa Drucker. Désolée de vous avoir mouillé à tout ça. Hein,
non, mais
merci beaucoup, invité. Léa Drucker. Donc, je rappelle que le tableau volé de Pascal Bonitzer avec Alex Lutz et Nora Hamzaoui est toujours en salle et que vous pourrez voir mercredi prochain Un homme en fuite. C'est un premier film de Baptiste Debroux avec Bastien Bouillon, Pierre Lotin, Marion Berbeau. Et la musique, vous l'avez précisé, de Feu Chatterton qu'on adore. Je vais vous libérer, Léa Drucker, car vous devez filer, traverser la Seine et aller à France Télévisions. C'est déjà la fusion des services publics. On commence par fusionner les invités de l'audiovisuel public. Donc ça, c'est un bon point pour nous. Avec les 3 millions de points qu'on vient de perdre, on vient d'en regagner un demi. Et ça, c'est déjà pas mal grâce à vous. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Ma chère Léa Drucker. Et bonjour aux amis de France Télé. Le grand dimanche soir s'achève toujours avec une petite chanson. Frédéric Fromet est dans la salle ce soir avec nous aussi, mais sur scène cette fois-ci, c'est celle qui nous vient des Cévennes. Vous faites des longues traversées pour venir nous voir, ma chère Guédry. Ah là là. Ben voilà, il y a un clavier et donc nous sommes tout ouïes. C'est à vous, ma chère Guédry.
On vit tous dans la terreur de perdre notre emploi. On a tous peur du jour où on n'en aura pas. Mais faut pas trop stresser, car c'est pas si courant. de se faire virer d'un job qu'on a depuis longtemps. On peut violer des gamins et continuer à écrire des bouquins. On peut arracher des mains sans se faire virer par Darmanin. On peut faire tuer 12 500 enfants et rester chef d'un gouvernement. Mais si on dit pour rigoler que celui qui fait tuer ses marmots est un nazi au prépuce coupé, alors la gare à ton boulot. Il arrive que des décisions juridiques ne soient pas respectées par le service public. Parfois, quand on défend les droits de l'homme, ça finit au prud'homme. Faut pas trop paniquer, c'est pas si fréquent de se faire mettre à pied d'un travail qu'on fait depuis 15 ans. On peut demander des photos de bites à de jeunes garçons et continuer à présenter une émission de télévision. On peut sodomiser des fillettes de 14 ans et continuer à réaliser des films pour le grand écran. On peut faire bombarder des écoles et des hôpitaux sans pour autant se faire renvoyer de son boulot. Mais si tu fais une plaisanterie sur celui qui bombarde à tout va en le traitant de nazi circoncis, là faut faire gaffe à ton contrat. Il arrive que des décisions juridiques ne soient pas respectées par le service public. Parfois, quand on défend les droits de l'homme, ça finit au prud'homme, je l'espère.
Merci ma chère Guédré. Merci. Merci Guédré. Vous jouez bientôt à Paris, n'est-ce pas?
Mais oui, je suis en concert demain à Paris. Je crois qu'il reste quelques toutes dernières places. Et après, j'irai à Strasbourg, Dunkerque, parce qu'il faut aussi faire un peu de social. Et je continue ma tournée jusqu'à cet été. J'espère vous y voir.
Et là, c'est la tournée des chansons de l'émission.
Et oui, c'est les chansons que j'ai écrites pour France Inter, pour vous, Charles.
Ah, oh, merci. Et celle-là, vous la chantez ou pas? Vous la chantez?
Je pense que je la chanterai demain. Ouais.
Mais comme ça, on prévient le directeur du théâtre. Parce que je peux lui donner quelques petits tutos pour la suite des emmerdes.
Je pense qu'il sera ravi.
Parce que je pense que je vais avoir pas mal de boulot cette semaine. Voilà, j'espère qu'il me restera un petit peu de temps pour écrire des blagues et pouvoir vous accompagner cette semaine. Parce que je pense que ça va être pas évident. Hein. Mais on aura bien lutté. Je suis fière de vous. Merci à notre... merci déjà à Guédré, bien sûr. Merci à Lescope qui nous a accompagnés ce soir, à Hakim Omiri, le tremplin. Merci à toute notre équipe, notre attaché de production sur tous les fronts, qui est fantastique, Alexia Lacour, qui traverse tout ça avec nous et si on lui avait dit de choisir cette émission. Réalisation, alors lui c'est de son plein gré, François Audouin. Rédaction en chef d'orchestre, Ramzi Assadi, vous pouvez applaudir. Car il assure aussi la coécriture avec la collaboration de Xavier Naud et Romain Forgeor. Merci beaucoup à Mathilde Sour qui se charge de l'édition de nos pages web et d'éditer les vidéos aussi. Et elle va vers d'autres aventures dans la maison Vermouth, on en passe très fort. Merci aux hôtesses d'accueil et des loges. Merci à Vincent Combette qui est notre régisseur ce soir. Merci à tous les services de cette belle maison de la radio et de la musique qui nous offrent de faire cette émission. Ce soir, c'était Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Mathilde Amé, Zouli, Djoubaka, Jamil Lechlag, Guédré et bien sûr Guillaume qui était avec nous.
Et mesdames et messieurs, Charline Bannenacker.
Merci. Après le journal, vous retrouverez les petits bateaux de Camille Cronier qu'on embrasse très fort. Et ensuite, le masque et la plume avec Rebecca Monozoni qu'on embrasse aussi à dimanche prochain à Rouen. En direct et en public.